Et on ouvre ce journal avec la variole du singe qui continue de s'étendre. On fait le point tout de suite sur ce que l'on sait, sur qu'on ne sait pas encore de ce virus.
La variole du singe est une zoonose virale qui se transmet à l'humain par les animaux, notamment les rongeurs et les singes. Ce n'est pas un virus nouveau, il est connu depuis les années 60 et il est surveillé principalement en Afrique. C'est un virus dit émergent, c'est-à-dire qu'il a la potentialité d'être épidémique. On a déjà eu des cas en dehors des zones endémiques, mais il s'agissait principalement de cas d'importation. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'on observe. Ce sont des cas dits autochtones, avec au moins 120 cas confirmés ou suspects, repérés dans 11 pays non africains, et qui touchent principalement de jeunes hommes qui se définissent comme homosexuels. Cela signifie qu'il y a eu plus de contaminations hors Afrique, en une seule semaine qu'entre 1970 et mai 2022. Une équipe portugaise vient de publier une première analyse génomique du virus, mais une question persiste, pourquoi ce virus surgit dans ces zones et chez ces populations? India Leclerc est enseignante-chercheuse au sein de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur et enseignante à l'Université Paris-Cité. Elle est spécialiste des poxvirus.
C'est sûr que c'est une maladie en fait qui est assez méconnue en Europe ou même en Amérique du Nord. Et il est possible en fait qu'elle soit passée sous les radars pendant un certain temps, puisque finalement elle peut être facilement confondue avec soit la varicelle, soit des maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis. Les données actuelles laissent supposer que finalement ce virus il est transmissible d'un individu à un autre lors de contacts rapprochés. Donc la transmission interhumaine, elle n'est pas simple pour ce virus. Le virus se transmet difficilement d'une personne à une autre. C'est une souche d'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, cette souche est moins létale que la souche qui circule principalement en Afrique centrale. Donc de ce que l'on sait actuellement, c'est que cette souche a un taux de létalité de l'ordre de 1 à 3%. Donc des maladies relativement bénignes qui entraînent des cas graves chez un nombre relativement peu important de personnes. Donc le mode de transmission reste à définir, notamment est-ce qu'on a un virus qui est plus transmissible que celui qui circulait jusqu'à présent. Alors au niveau de la virulence, jusqu'à présent, les cas qui ont été identifiés sont des cas relativement bénins, donc il ne semble pas y avoir d'évolution à ce niveau-là. La période d'incubation du virus est relativement longue, donc entre 5 et 20 jours. La chance que l'on a avec ce virus, c'est que finalement, les personnes qui vont être infectées vont être contagieuses à partir du moment où elles développent les premiers symptômes. Donc ce qui nous laisse le temps de réagir et de placer les personnes en quarantaine, et ce qui empêche en fait la dissémination du virus pendant cette période d'incubation. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, avec le SARS-CoV-2, où finalement, là, les personnes étaient contagieuses à partir du moment où elles étaient infectées et pas à partir du moment où elles déclaraient les symptômes. Donc finalement, on peut avoir une dynamique de transmission qui est moins importante, moins fréquente qu'avec un virus, par exemple, comme le SARS-CoV-2 ou le virus de la grippe.
Voilà, et on suit bien entendu ce début de, bon, on va pas dire d'épidémie parce qu'on n'y est évidemment pas encore, mais en tout cas, cette variole du singe, on le suit dans le Journal des Sciences et comme d'habitude, tous les liens pour tout savoir, c'est sur notre fil Twitter, @lamethodefc, ainsi que sur la page de l'émission sur le site franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans The Astrophysical Journal, nous avons la mesure la plus précise de la valeur du taux d'expansion de l'univers.
Oui, pour mesurer l'expansion de l'univers, on utilise la constante Hubble. Et pour calibrer cette constante, une équipe américaine a analysé 30 années d'observation du télescope spatial Hubble. Les chercheurs se sont appuyés sur 42 supernovas de type 1A qui ont été utilisées comme des marqueurs de bornes kilométriques. Selon leurs résultats, le taux d'expansion de l'univers est de 73 km par seconde par mégaparsec au lieu des 67,5 km par seconde par mégaparsec attendu. Encore une fois, l'expansion de l'univers serait plus rapide que ce que les modèles avaient prédit.
Selon la NASA, la sonde Voyager 1 nous transmet des données incohérentes.
Et lancée en 1977, la sonde a franchi l'héliosphère en 2012 et elle est la première à explorer l'espace interstellaire. Elle poursuit son voyage à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre. Ses équipements, vieux de 45 ans, continuent de recevoir et d'exécuter les commandes reçues de la NASA. L'antenne semble être correctement alignée, mais problème, Les données de télémétrie qu'elle renvoie ne sont pas valides. Alors pour le moment, on ne sait pas encore à quel point ce souci peut affecter la collecte et la transmission d'informations scientifiques. Et il faudra s'armer de patience avant de diagnostiquer la panne à une telle distance. Il faut environ 2 jours pour envoyer un message à la sonde et pour obtenir une réponse.
Et enfin, une étude parue dans la revue One Earth décrit un autre impact du dérèglement climatique sur notre santé.
Oui, dans un monde plus chaud, nous risquons de moins dormir. Une équipe danoise a analysé les données de plus de 48 000 dormeurs dans 68 pays, munis d'un bracelet de suivi entre 2015 et 2017. Des données qu'ils ont associées aux données météorologiques. Il se trouve que la hausse des températures affecte la durée de sommeil. Lors des nuits plus chaudes, on s'endort plus tard, on se réveille plus tôt, avec des nuits de moins bonne qualité. Alors le phénomène touche principalement les pays à faible revenu, les femmes et les personnes âgées. La hausse des températures ferait déjà perdre environ 44 heures de sommeil par an.